téléspectateurs, vous.
On entend du sol d'un
spectateur.
Les sociaux, on est très fiers. C'est notre enfant. Hello!
Bonjour à tous, démarrage en trombe de l'instant M.
MTV has become a phenomenon.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Une émission tout entière pour vous, tout entière sur vous, auditeurs de radio. Vous qui nous écoutez en direct ou en podcast, sur un smartphone ou sur un poste à pile, jour et nuit ou par bribes, matinée de stations locales et de stations musicales avec lesquelles vous nous faites, j'en suis sûre, tout un tas d'infidélités. Dis-moi sur quelle fréquence tu es branché et je te dirai qui tu es. Pour une fois, ce n'est pas le média lui-même qu'on va passer au crible, mais ceux qui le reçoivent. Essayons de définir par là le lien que vous entretenez, non pas avec la radio, mais avec votre radio. Bonjour Hervé Glevarec.
Bonjour Sonia Devillers.
Le sociologue de référence sur la radio, c'est vous, entre autres. Vous êtes un petit nombre à travailler sur ce sujet, un tout petit nombre. Directeur de recherche au CNRS, Ma Radio, Attachement et Engagement, c'est votre petit livre, Enquête, publié par l'INA.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Alors, il y a une des premières phrases de votre ouvrage qui m'a fait bondir. L'individu qui écoute ça, tout ça, n'existerait pas.
Il est 10h pile du matin, derrière les vitres du studio, le soleil est radieux. Alors surtout, ne bougez pas.
Mais Romano, est-ce que je peux te lancer un défi ce matin ?
Oui, vas-y, défie-moi.
Je te défie, Romano, de te mettre tout nu devant Cédric.
France Musique.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL.
Voilà, par ordre d'apparition, ma consoeur Adèle Von Red sur France Culture, Difool sur Skyrock, Musique Baroque sur France Musique et les grosses têtes sur RTL. Alors comme ça, cet individu-là n'existerait pas, Hervé Glevarec ?
Non, il est beaucoup trop éclectique et non, effectivement, il n'a pas d'existence radiophonique ou alors si peu.
Qu'est-ce que c'est qu'une existence sociologique pour le chercheur que vous êtes ?
Alors là, une existence sociologique, c'est celle qu'on mesure d'abord par la statistique parce qu'elle est importante pour ne pas dire de bêtises. Et puis c'est celle que moi j'ai rencontrée par mes entretiens et cette petite enquête de terrain où j'ai bien vu que les gens avaient un attachement fort à une ou des radios et qu'il ne zappait pas sur tout le spectre radiophonique.
Et un peu, oui, parce que vous dites bien que l'éclectisme radiophonique est mineur, c'est-à-dire vous dites que c'est un éclectisme à franges. Qu'est-ce que c'est qu'un éclectisme à franges ?
Ça veut dire que les gens sont très fortement attachés à une radio, souvent une radio principale, voire à deux, trois, je crois que la moyenne est de quatre radios, écoutées par les Français de 13 ans et plus. Et puis à la frange, c'est ce qu'ils écoutent en plus, dans la voiture, du fait qu'ils ont des enfants qui les obligent à écouter d'autres radios que les leurs quand ils sont adultes. Voilà, c'est cette idée de...
Donc moi, par exemple, si je vous dis que j'écoute massivement France Inter, mais que j'aime beaucoup RMC, mon directeur des programmes va en faire une jaunisse que je le dise à l'antenne, mais c'est vrai, et que j'écoute aussi beaucoup les musicales, avec une préférence pour RTL2, Nostalgie, Virgin, je suis un être sociologiquement acceptable ?
Oui, bah, vous manifestez, semble-t-il, une caractéristique principale de l'auditeur de radio, qui est qu'il a un attachement générationnel à sa radio, parce que c'est quand même l'âge qui apparaît la variable la plus structurante du paysage radiophonique, et qui explique le mieux les différents profils d'auditeurs de radio que nous sommes, en face de cette offre radiophonique et de sa diversité, et de sa nature notamment musicale, et de sa nature aussi générationnelle.
Alors, je vais chercher à vous piéger encore une fois et je vais prendre un exemple tout à fait personnel. Je vous fais écouter une très belle chanson de Richard Cochiant que je trouve souvent sur Nostalgie.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. J'en dors plus, viens me voir demain.
Voilà, j'ai attrapé un coup de soleil, je sais pas si ça vous plaît, moi ça me plaît beaucoup et je risque pas du tout de l'entendre sur France Inter, ça risque pas d'être dans nos playlists. C'est très intéressant ce que vous dites sur l'âge dans votre ouvrage Hervé Glevarec, parce que vous le dites, parler de la radio c'est parler de son âge, mais également de la signification sociale de son âge, ce qui est un petit peu différent.
Absolument, parler de sa radio c'est être amené à parler de soi en tant qu'on a un certain âge. Donc tout de suite les catégories comme j'ai la radio de mon âge, âge où j'écoute des radios de jeunes, où j'écoute des radios de vieux, où j'écoutais des radios que j'écoute plus et je rentre dans la classe des vieux, etc. Donc la catégorie jeune-vieux devient absolument centrale quand
Par
il s'agit.
Par exemple, je vous fais écouter Séverine, c'est l'une de vos interlocutrices. Ouais. Hein. Alors elle écoute une station locale en Haute-Savoie et elle dit j'ai arrêté de l'écouter parce que c'était trop boum boum. Voilà, il y a des radios qu'on a écoutées oui. et qu'aujourd'hui on n'écoute plus. Vous partez de l'hypothèse que on ne vieillit pas avec sa radio, on en change au fur et à mesure qu'on vieillit.
Oui, comme le paysage radiophonique est quand même structuré par ces deux dimensions qui sont les radios musicales et les radios généralistes, je pense que l'essentiel du parcours radiophonique des individus, des Français, c'est quand même de passer des radios musicales qu'ils ont pu écouter jeunes, qu'ils peuvent continuer à écouter, Nostalgie notamment, à des radios généralistes d'information. Parce que si leur centre d'intérêt évoluent au cours de leur vie.
Voilà, donc vous vous dites la radio c'est une pratique qui objective l'âge et la génération culturelle ensuite. Et moi ça m'a amusé parce que je pense qu'adolescente j'écoutais déjà Nostalgie et j'écoutais déjà Richard Cochet. Mais ce qui est très intéressant c'est-à-dire que l'âge en fait n'est pas une réalité chiffrée, c'est aussi finalement l'univers dans lequel on se projette à n'importe quel âge.
Oui, c'est cette dimension de ce que j'appelle l'âge représenté. J'ai rencontré une auditrice, par exemple, qui continue d'écouter Skyrock et Ado FM, radio hip-hop, rap, parce qu'elle veut se maintenir au courant, parce qu'elle travaille avec des jeunes et que sinon, elle est has-been, sinon elle est dépassée. La radio objective notre âge et puis elle objective la valeur aussi que les âges ont dans la société française
Exactement, et puis vous dites que Nostalgie, la radio, Nostalgie incarne de manière paradigmatique, presque, cette dimension historique, générationnelle, patrimonial du lien à la radio. C'est une radio qui rejoue des souvenirs. Jean-Claude vous dit que quand il entend Night in White Satin, cette sublime chanson des Moody Blues, finalement, il y a mille et une scènes de sa vie passée qui lui reviennent.
Absolument, et je pense que la radio est un des cadres de la mémoire, cadres de la mémoire culturelle, et notamment par ce mariage.
Et intime. C'est une rencontre entre l'objet culturel
et des expériences passées. Ouais. Alors, soit sont liées à des moments d'enfance et d'adolescence, soit peuvent être liées aussi à des moments familiaux. C'était peut-être une chanson écoutée par les parents et donc partagée autour du poste.
Parlons-en des parents, justement. Chez moi, quand j'étais petite, on n'écoutait pas du tout la radio. Mon père écoutait France Musique trop fort dans la voiture et on lui demandait toujours de baisser la radio. Et là-dessus, vous avez des lignes, je pense, qui vont tous nous interpeller. C'est-à-dire que vous vous dites qu'il y a une culture radio qui se transmet de génération en génération, et que finalement, le sociologue que vous êtes est capable de qualifier la place que la radio occupe dans la vie d'un individu en fonction de la place qu'elle occupait dans sa famille quand il était petit.
Oui, je m'autorise à dire ça à partir des entretiens. Ça mériterait d'être validé un peu par la statistique, mais oui, j'ai été frappé de constater que les auditeurs qui manifestent un attachement fort à la radio sont des auditeurs qui ont des souvenirs de radio partagés avec leurs parents. Oui. La radio est une Madeleine de Proust.
Françoise vous dit, pour moi, les grosses têtes, c'était ma maman qui repassait quand j'étais petite.
Voilà, exactement. Donc, il y a des souvenirs et des expériences affectives de gaieté mises par la radio dans la maison qui sont attachées aux individus.
Et en même temps, la radio, c'est un ancrage très fort dans le présent. C'est une question du temps passé, du temps vécu, du temps remémoré, du temps intime. Et en même temps, c'est un ancrage avec le monde qui vit, qui bouge, qui se fait au moment où on l'écoute. Parce que l'écoute est encore massivement en direct. Oui. Je vous propose d'écouter un confrère, un concurrent même, Julien Courbet sur RTL.
Comme chaque matin, nous allons vous aider par le bon sens, par la négociation, par l'humour, qui est notre arme fatale avec des cas spécialisés autour de la voiture, notamment le cas d'Yvon. Et Yvon, il nous dit, ils vont voir ce qu'ils vont voir.
Et on voit bien dans la bouche de Julien Courbet, je précise que vous êtes toujours sur France Inter, qu'il utilise le « vous » et le « nous ». Donc, il inclut l'auditeur dans ce qui est en train de se passer en ce moment même dans son studio.
Absolument. Et Julien Courbet, j'étais frappé de voir à quel point il était apprécié pour cette espèce de défense du consommateur, de l'auditeur, du petit face au professionnel, de l'assurance, de la médecine, etc. Et il construit un pacte avec l'auditeur qui est ce pacte du « nous » que vous avez très bien relevé.
C'est ça. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a donc un temps social de la radio. et vos interlocuteurs vous font remarquer que on n'écoute pas la radio avec le même effort de concentration en fonction des radios, mais aussi en fonction du moment de la journée.
Oui, il y a des régimes d'attention diverses de la radio, et je pense qu'ils font partie de la radio parce que souvent on oppose écouter et entendre, et on dévalorise la notion d'écouter la radio en fond sonore, etc. Mais je pense que ça fait partie...
Ce qui est plutôt du registre d'entendre.
Voilà, c'est ça. La radio, ça devrait être écouté assis dans un salon. Typiquement, la dramatique de France Culture devrait être écoutée pour elle-même. Bon, c'est une des modalités de l'écoute de la radio qui peut être plus ou moins suscitée par le programme. C'est-à-dire que s'il y a un programme qui vous accroche d'un coup, et ben vous vous arrêtez. Les bruits environnants des enfants, etc., deviennent très perturbateurs. On ferme la porte de la salle de bain pour écouter les informations. Mais ça n'exclut pas un mode d'écoute de la radio en fond sonore, pendant qu'on fait les devoirs, pour un certain nombre d'adolescents, par exemple.
Voilà, et puis vous avez aussi, par exemple, Anne-Marie qui vous fait remarquer que France Inter, à ses yeux, hein, c'est plutôt pour un public averti, c'est-à-dire un public qui a déjà compris les choses, par exemple. Ou que France Culture, vous fait remarquer un autre auditeur, peut susciter le rejet, justement.
Oui, effectivement. Elle s'est mise comme une référence, la référence qui incarne un peu le savoir et la culture, mais avec cette espèce de critique sur « mais ça manque de pédagogie ».
Alors, ce qui est très intéressant dans ces temps sociaux de la radio, c'est peut-être ce que vous raconte Mélissa. Elle a 24 ans, elle a fait des études de pharmacie. On écoute Mélissa à travers qu'elle écoute à la radio.
Vous écoutez Europe 1, il est 8h.
Bienvenue et bonne journée à tous.
Rire et chansons 100% rire, tous les jours, 6h-10h et 16h-19h.
Maintenant, 40 minutes. Pop, rock, electro. Jusqu'à 20h, de Morgane sur Virgin.
Voilà la journée radiophonique de Mélissa. Elle écoute Europe 1 le matin. Et ça, c'est une habitude familiale. Donc, on en revient à ce qu'on disait sur l'héritage familial. Ensuite, elle écoute Rire et Chansons volontiers l'après-midi et plutôt Virgin le soir.
Oui, même Virgin au tout début. Je pense que sur son radio réveil, elle se lève avec Virgin. Elle éteint assez rapidement parce qu'elle rentre dans ce temps de la coprésence au présent où il est nécessaire d'écouter les informations. Et c'est une radio généraliste, Europe 1, qui va lui fournir cette information du lever le matin. Après, entre midi et deux, elle me dit qu'elle rentre du travail. Le travail, c'est un peu fatigant. Elle va manger. C'est un temps des petites pauses. Elle va écouter des programmes courts comme France Info ou Rire et Chansons. Et le soir, pendant qu'elle prend sa douche, qu'elle fait sa toilette, qu'elle est dans sa salle de bain, elle remet Virgin Radio qui correspond à un moment de détente et de fin de journée.
Et vous dites, la radio affecte nos humeurs. Et comme la radio affecte nos humeurs, en fait, c'est un média qui reconfigure chaque moment de la journée.
Oui, un peu comme la musique est susceptible de le faire, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on recherche, on peut chercher telle radio, mais on est aussi affecté en retour par la radio. Donc en fait, c'est un jeu entre l'auditeur et
dialogue,
la radio.
C'est une forme de dialogue.
Absolument, oui, je pense que c'est au principe de notre zapping,
par exemple.
C'est
tout à fait bilatéral.
Je mettrai ni le déterminisme du côté de l'auditeur, ni du côté de l'offre radiophonique, mais d'un échange avec des auditeurs qui sont compétents. Depuis la libéralisation des ondes, le paysage radiophonique hertzien n'a quasiment pas changé.
C'est important de le souligner parce que vraiment, Hervé Glevarec, dans cette émission, on ne cesse de commenter les changements du paysage médiatique français. En presse écrite, ils sont extrêmement lourds et spectaculaires. En télévision aussi. On n'y pense jamais, mais oui, la radio n'a pas bougé depuis 20 ans.
Elle est extrêmement stable et la révolution numérique n'a pas affecté le paysage radiophonique traditionnel que nous connaissons tous depuis les années 80. Aucune radio issue du numérique n'a remplacé les grandes radios RTL, NRJ, Europe 1, France Inter, etc. Donc on est toujours avec ce même paysage radiophonique.
Alors je vous fais écouter deux grandes voix de radio pour vos interlocuteurs, Hervé Glevarec, qui ont servi de chair à cette enquête sociologique. La voix, c'est quelque chose de très important.
Quand on reçoit des cadeaux de près de 20 000 euros de costumes, l'équivalent de 10 SMIC, d'un ami que l'on sait très engagé, dans des relations pas toujours claires entre l'Afrique et la France, est-ce qu'on se sent redevable ?
Il s'en est passé, bien le bonjour, quelques images d'un week-end assez frigorifié, quelques degrés pas bien lourds. Le pouce levé et le grand sourire de Laurent Fabius à Genève, accord nucléaire avec l'Iran. La grimace à répétition du gardien de Tottenham, Hugo Lloris, allant chercher 6 fois le ballon au fond de ses buts. Et le bourreau était Manchester City.
Jean-Jacques Bourdin sur RMC, Pascal Clark sur France Inter. Oui, vos interlocuteurs vous le disent, la voix c'est un lien très fort.
Oui, elle est forte pour les auditeurs qui peuvent ressentir des frissons à l'écoute d'une voix masculine, grave par exemple, qui peuvent être irrités par d'autres voix trop perchées, qui peuvent ne pas se reconnaître dans le ton de certaines radios musicales jeunes parce que ça parle trop vite, ça s'adresse pas à eux. La voix fait partie des souvenirs des auditeurs contemporains.
Alors qu'est-ce qui fait ce lien, cette identification unique, hein, justement, parmi tous les médias, entre l'auditeur et sa radio, parce que on dit ma radio.
Oui, j'ai été frappé par les expressions fréquentes de « je me retrouve pas dans cette radio, c'est pas moi ».
Vous avez même un interlocuteur, une femme, elle vous dit « j'ai pas toujours le courage de d'aller sur France Culture », comme si c'était un déplacement physique, comme s'il fallait l'arracher à ce qu'elle vit pour aller ailleurs.
Oui, un lien qui est un lien que je pense être un lien d'identification. Hein. La radio, c'est soi, sa radio, c'est... On s'y voit comme un miroir et un repère. Voilà. C'est à la fois un miroir, un repère, mais ce lien d'identification fort, qui est un lien aussi d'appartenance à ce qu'on pourrait appeler une communauté, un groupe, quelque chose qui fait sens pour chacun de nous, il faut aussi le contrebalancer par quelque chose qui est valorisé à propos de la radio, qui est la diversité des opinions qu'elle offre. C'est-à-dire que la radio est structurée par un lien très très fort d'identification, mais en même temps, c'est un lieu de la diversité des opinions. Et les auditeurs aiment que la radio soit cet univers relativement ouvert, du point de vue de la norme, du point de vue du langage, du point de vue des idées politiques. On le voit bien, il suffit de regarder la bande FM, s'y côtoie ici et maintenant, et Radio Courtoisie. Les auditeurs français valorisent cette différence d'opinion politique et cette possibilité d'y parler sans trop de contraintes. Voilà. Le tout dans un lien de très forte identification où ma radio c'est moi. Et si c'est pas moi, ben, j'ai un problème, je quitte.
Je quitte. Oui. Merci beaucoup Hervé Glevarec. Ma radio, donc attachement et engagement, qui vient de paraître à l'INA, donc c'est cette enquête de terrain que vous avez effectuée auprès des auditeurs, puisque je ne peux pas dire de nos auditeurs, auditeurs en général.
Bravo
et puis et puis j'en profite aussi pour relayer l'appel à candidature qu'a publié l'INA. Donc l'Institut National qui s'occupe des archives audiovisuelles justement, pour son prix Linatech. Alors le prix Linatech en fait récompense chaque année des travaux de recherche qui sont conduits à partir des collections de l'INA, donc des collections des archives de télévision et de radio, ou alors des travaux de recherche qui portent sur l'ensemble du paysage numérique et audiovisuel. Et je vous le signale parce qu'il n'y a pas seulement que les chercheurs aguerris comme vous qui sont conviés à participer à ce prix, des chercheurs déjà thésards, mais également il y a un prix d'encouragement pour les étudiants éventuellement en master qui sont intéressés par cette matière passionnante. Merci à vous.
Merci.